J'espère que vous êtes en forme. Bienvenue au 8e épisode du podcast Briser la glace, le podcast de hockey dans lequel on parle un petit peu d'actualité de hockey, mais principalement ces temps-ci du repêchage de la Ligue nationale de hockey, le repêchage 2023 qui approche à grands pas, qui a lieu là dans à peu près un peu plus de 3 semaines, mercredi le 28 juin. Dans le fond sera le repêchage de la première ronde et le lendemain, là, jeudi le 29, ça sera les rondes subséquentes. Donc, dans quelques semaines, ça approche. On a hâte. Donc, au menu pour l'épisode d'aujourd'hui, j'aimerais d'abord, c'est ça, faire un retour sur le mock draft post-loterie que j'ai publié là, il y a quelques semaines de ça, il y a 3 semaines, je crois, environ de ça. Ensuite, faire un retour, là, c'est ça, sur un petit overview encore de quelques joueurs, une petite mise à jour sur quelques joueurs, le championnat mondial qui a terminé, mais également faire un retour sur d'autres mock drafts qui ont été publiés récemment. En fait, en ce moment, c'est la folie furieuse des mock drafts. Tout le monde publie leur mock draft et tout le monde publie leurs classements finaux également. Comme j'avais déjà expliqué, là, évidemment, classement de joueurs versus mock draft, c'est 2 choses complètement différentes. Un classement de joueurs, on détermine, c'est vraiment une liste personnelle, tandis qu'un mock draft, on essaie de prédire, dans le fond, dans quel rang de sélection sortiront les joueurs, tout en prenant en considération c'est qui l'équipe qui repêche, ainsi que leurs besoins et leur ADN de repêchage, si on veut. Donc, on va faire un tour un peu de ça. J'ai répertorié quand même plusieurs listes, plusieurs mock drafts, mais surtout plusieurs listes. Pour l'instant, c'est ça qui m'intéresse vraiment plus que les mock drafts. Je vous dirais, les mock drafts, ça se ressemble un peu tous. Si vous n'avez regardé une coupe, là, on est pas mal tout le temps dans la même poutine. En fait, là, le Bedard, Fantilli, Carlson, Michkov, Smith, Ryan Backer, etc. Ça suit pas mal tout le temps la même chose. Mais dans les faits, est-ce que c'est vraiment ça qui va se produire lors de la journée du repêchage? J'en doute de plus en plus et c'est ce qui est intéressant. En fait, on va reparler. En fait, je vais revenir là, c'est ça, sur le mock draft que j'avais sorti, épisode qui avait été publié sur YouTube à la base et que j'ai republié là il y a quelques jours de ça sur justement sur le site du podcast. Normalement, je publie pas sur YouTube, mais là, je jugeais intéressant de le faire là-dessus, question d'avoir un reach un petit peu plus grand. Et en ce sens, merci pour tous les visionnements. On est déjà rendu à plus de 1600 vues sur la vidéo, ce qui est un sommet que je ne m'attendais aucunement, surtout sachant que j'ai à peu près 3 followers sur Facebook. Donc, merci à tous ceux qui ont visionné cette vidéo. Ça fait très chaud au cœur et j'espère en publier d'autres prochainement. Par ailleurs, j'ai déjà commencé à travailler sur mon prochain mock draft. Je vais en sortir un deuxième avant le 28 juin, avant le repêchage officiel. Et dans ce mock draft-là, officiel et final, je vais inclure également des vidéos du gameplay, en fait, des vidéos de jeu des joueurs dont il est question. Et ça va être là des positions 1 à 32 avec peut-être là un bonus un peu pour la deuxième ronde. Donc ça va aller un peu plus loin que le 1 à 16 que j'avais fait initialement. Maintenant qu'on connaît là toutes les positions jusqu'à... Ben, en fait, il y a 31-32 qui reste à déterminer selon qui va remporter la Coupe Stanley. Mais bref, ça c'est un détail mineur selon moi. Donc merci, c'est ça, pour votre support. C'est grandement apprécié. Par ailleurs, c'est ça, le mock draft que j'avais fait et publié sur YouTube, c'est important de remettre en contexte. J'en ai parlé là, lors du dernier épisode, mais je veux le remettre en contexte encore. Ça avait été enregistré quelques minutes après la loterie. Donc, évidemment, j'étais déjà préparé. Je savais pas mal où je m'en allais selon qu'est-ce qui sortait. Et j'avais déjà fait mes évaluations de quel genre de joueurs les équipes pourraient aller chercher. Toutefois, c'est ça, je me suis tellement dépêché à sortir cette vidéo-là, à enregistrer cet épisode-là, qu'il y a quelques choix qu'avec le recul, mais je suis pas convaincu que c'était le meilleur des choix. Puis Également, c'est ça, j'avais fait glisser volontairement Matvey Michkov et Zach Benson. Zach Benson, ben c'est sûr, on va en parler, mais je pense que j'aurais pu le faire sortir un petit peu plus tôt. Il y avait une opportunité pour lui de sortir un petit peu plus tôt que ça. Mais pour Michkov, qui glissait au 8e rang, repêché par les Capitals de Washington, c'est un scénario que je juge probable. Est-ce que c'est le scénario que moi je souhaite? Pas nécessairement. Est-ce que c'est le scénario le plus probable également? Je ne crois pas, mais je crois que c'est un scénario qui se pourrait. Et c'est ça que je voulais mettre en lumière. Et je parlais d'entrée de jeu que je trouve que la plupart des mock drafts se ressemblent tous. Je voulais offrir justement quelque chose de différent, quelque chose d'un peu plus divertissant. Question de brasser la soupe un peu, puis avoir des discussions qu'on n'aurait pas normalement en suivant l'ordre normal. Par ailleurs, ce scénario-là de faire glisser Michkov au 8e rang, il y a quelques jours, ou il y a peut-être une semaine de ça, il y a Corey Pronman et Scott Wheeler de The Athletic qui ont sorti leur mock draft à deux, et c'est exactement le scénario qu'ils proposent. En fait, leur top 8 de leur mock draft est identique au mien, ou quasi identique. En fait, ils ont swappé Smith et Carlson. Mais bref, je vais revenir à ce mock draft-là tantôt. Je veux revenir au mien pour l'instant. Mais tout ça pour dire, je suis pas le seul fou à avoir émis cette hypothèse-là. Pronman et Wheeler ont sorti cette même hypothèse. Probablement que ce sera pas le scénario que je vais présenter lors de mon prochain mock draft. Je crois qu'il y a quand même des chances très, très, très élevées que Michkov sorte au 4e rang par les Sharks de San Jose. Personnellement, je ne crois pas que le Canadien va aller le chercher. Je crois qu'il va soit sortir au 4e rang par les Sharks ou au 8e rang par les Capitals. Mais bref, on y reviendra. Donc, juste pour faire un petit résumé de mon mock draft en première position, les Blackhawks, évidemment, je les avais fait repêcher. Connor Bedard. Deuxième rang, Anaheim, Adam Fantilli. On reviendra sur le cas de Fantilli tantôt. Je sais qu'il y a encore là, des critiques à son égard par les amateurs qu'il voit juste jouer au championnat junior et au championnat mondial, mais on y reviendra. Troisième rang, j'avais pris Leo Carlson pour les Blue Jackets. Je crois que c'est le choix qui fait vraiment le plus de sens pour eux autres. Ils cherchent un gros centre numéro un, potentiellement joueur de franchise. Évidemment, il y a également Will Smith qui peut remplir ce rôle, et je sais que le nom de Will Smith est beaucoup lié aux Blue Jackets en ce moment, mais je crois que Carlson a un package beaucoup plus intéressant, et comme j'ai déjà mentionné à maintes et maintes reprises, je ne crois pas que Smith ait le profil pour être un joueur de centre dans la Ligue nationale. Présentement, oui, c'est écrit qu'il joue au centre, oui, il prend les mises en jeu, mais ce n'est pas lui qui prend les responsabilités traditionnel qu'un joueur de centre doit prendre, notamment en défensive et tout ça. Présentement, c'est Ryan Leonard qui a beaucoup plus ce rôle-là dans son équipe. Ceci étant dit, ça se peut qu'il demeure au centre, un peu comme ce qu'on voit avec Jack Hughes au New Jersey. C'est un peu une situation similaire. Ou même Kuznetsov à Washington. Mais moi, personnellement, Smith, je le vois plus à l'aile. Et c'est pour ça que j'ai mis Carlson troisième à Columbus. Quatrième, j'avais mis Will Smith à San Jose. Cinq, Montréal, j'avais mis Ryan Leonard. Pour moi, c'est le fit idéal pour cette équipe-là, un joueur que je crois qu'il est sous-estimé. Je crois qu'on va regarder dans quelques années et qu'on va se dire, je peux pas croire qu'il sorte aussi tard que ça. 6, Ryan Backer, Arizona. Ça, c'est un autre choix que peut-être je regrette. En fait, Ryan Backer en Arizona fait beaucoup de sens parce que l'Arizona ont déjà des bons attaquants, ont déjà un bon pool de prospects d'attaquants, mais leur défense est complètement vide. C'est le néant total. Ryan Backer est fort possiblement le meilleur défenseur de ce repêchage-là. Évidemment, sur papier et en date d'aujourd'hui, dans 10 ans, on s'en reparlera. Et en plus, c'est un défenseur droitier, ce qui ajoute et de quand même grand format. Il est quoi, 6 pieds 2, je crois, Ryan Backer? Et qui est quasiment NHL ready. Donc, tout ça ajoute beaucoup à sa valeur. Toutefois, je suis pas encore convaincu du plafond de David Ryan Backer. Est-ce qu'il va jouer dans la Ligue nationale? Convaincu. Est-ce qu'il va jouer sur une deuxième paire? Fort, fort, fort probablement. Mais est-ce un défenseur numéro un dans la LNH? Ça, je suis pas encore convaincu. Et pour utiliser un choix de repêchage je dirais top 5 dans la majorité des drafts, peut-être même top 10 dans un draft aussi loadé que celui-là. Si t'es pour utiliser un premier choix sur un défenseur, je crois que tu te dois d'aller chercher un défenseur qui a le potentiel de devenir un défenseur numéro 1, un Victor Hedman, etc., etc. Là, je suis pas convaincu que c'est tant le cas avec Ryan Backer. Ce qu'il faut remettre en contexte aussi avec l'Arizona, c'est qu'ils ont également le 12e choix au repêchage. Donc, moi, j'avais mis le scénario que, hey, va chercher le meilleur défenseur disponible au 6e rang et tu vas quand même avoir un attaquant très bon au 12e rang. Avec le recul, je sais, je me dis, il y a trop des bons attaquants disponibles au 6e rang. On parle évidemment là de Zach Benson, Dvorsky, ben j'avais Michkov dans ce mock draft-là qui est encore disponible. Réalistiquement, ça se peut que ce soit Ryan Leonard qui soit plutôt disponible. Oliver Moore, Colby Barlow. On peut même acheter Nate Danielson si on veut dans cette discussion-là. Est-ce que, justement, l'Arizona serait pas mieux d'aller solidifier encore leur attaque avec un de ces attaquants-là possiblement élite et d'attendre au 12e rang pour aller chercher un défenseur? Je crois que c'est le scénario qui pourrait se dessiner. Je pense que Ryan Backer pourrait glisser de quelques rangs et ne pas sortir 5, 6e, 7e comme plusieurs le mettent en ce moment. À chaque année, on voit des défenseurs à être reach, je vais le dire en guillemets en bon français. Donc des défenseurs qui sortent beaucoup plus tôt que ce qui avait été projeté, tout simplement à cause de leur justement rareté et à cause des besoins des équipes. Je ne sais pas si l'Arizona va prendre cette avenue-là. Je pense qu'un Zach Benson serait très, très, très intéressant pour eux autres. Peut-être même un Dalibor Dvorsky. Oliver Moore à l'aile, ça serait incroyable avec les joueurs comme Cooley et compagnie qui ont déjà, ça serait incroyable. Peut-être même Colby Barlow, s'ils veulent se rajouter justement un franc-tireur avec un plus gros gabarit un peu, ça pourrait être fort intéressant. Ou Ryan Leonard s'il est disponible aussi. Ryan Leonard en Arizona, ça serait incroyable. Donc bref, j'avais mis Ryan Backer 6e. Choix que je remets peut-être en question et on va voir quelle avenue je vais prendre lors de mon mock draft final. 7e rang, Philadelphie, j'avais mis Dvorsky. Je suis pas sûr que c'est le meilleur fit pour une équipe comme Philadelphie. Je pense qu'un gars comme Benson aussi aurait pu être très 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 intéressant, mais encore là, je stick à mon scénario que je voulais que Benson glisse volontairement parce que c'est un joueur plus petit gabarit, genre de joueur qu'on va regretter d'avoir laissé glisser. Et tu sais, personnellement, moi, Benson, il est 4e sur ma liste. Donc, c'est là qu'il faut faire vraiment la distinction entre un mock draft que je me mets dans les bobettes des équipes et un classement personnel. Donc, j'ai mis Dvorsky. Je suis pas convaincu que c'est tant le genre de joueur que les Flyers aiment ou recherchent. En même temps, c'est un gros bonhomme. Certes, c'est pas le plus physique, mais c'est un joueur quand même très, très cérébral. Un bon attaquant two-way aussi. Je suis pas convaincu de son upside tant que ça, son upside offensif. Mais bref, c'est ce que j'ai mis là. Évidemment, il faut remettre en contexte que c'était tout juste après le championnat junior des moins de 18 ans. Il y avait un peu ce qu'on appelle du recency bias, autrement dit la saveur du moment, donc des joueurs qu'on a vu jouer et qui ont dominé au championnat junior, évidemment tous les joueurs du programme de développement américain, mais des joueurs également comme Dvorsky ou Sandin Pelika qui ont tellement bien fait au tournoi que je pense que ça a augmenté leur valeur dans les classements, mais que là la poussière est en train de retomber et peut-être que justement ces joueurs-là vont redescendre au classement où ils se trouvaient, je dirais au mois de mars, avril. Tu sais, Dvorsky, certes en début de saison il était classé top 10, mais il avait rapidement droppé, je dirais aux alentours de entre 10 et 15 dans la plupart des listes parce que justement on remettait en question son upside offensif. Mais également le problème avec Dvorsky, c'est qu'il domine évidemment contre des joueurs de son âge. Puis c'est la même chose avec les Sandin Pelika et tout ça, sauf que lorsqu'il joue contre des messieurs, il en arrache. Il joue dans la... je vais essayer de le prononcer comme il faut, là, je me suis pas pratiqué avant. La Hockey Allsvenskan en Suède. Donc, une ligue pour monsieur, je pense que c'est l'équivalent un peu de la AHL en Amérique du Nord. Il a amassé 6 buts et 8 passes, 14 points. Certes, c'est pas mauvais contre des messieurs, mais pour remettre en contexte, c'est à peu près les mêmes stats que Jacob Delarose avait fait lors de son année de repêchage. C'est pas des mauvaises stats, c'est quand même des stats supérieures à des joueurs établis dans la Ligue nationale. On parle de André Burakovsky, William Carlson, Victor Rask, qui avaient fait des moins bonnes saisons que ça. Toutefois, la grosse différence, c'est que Dvorsky a un 14 points, mais a un différentiel de moins 19, ce qui est la pire récolte pour un joueur éligible au repêchage de la Ligue nationale ever. Le deuxième est à moins 8, lui est à moins 19. Donc c'est complètement absurde. Tu sais, Delarose, évidemment, personne à Montréal qui l'a aimé à part moi, je crois, mais tu sais, Delarose, lui, était à plus 8, 14 points plus 8. Dvorsky, 14 points moins 19. Tu sais, des joueurs comme Pasternak et tout ça également ont fait cette ligue-là et n'ont jamais eu des stats aussi atroces que Dvorsky. Sauf que Dvorsky, championnat junior, championnat mondial, était tout simplement hallucinant. Est-ce qu'on parle d'un joueur qui va topper sur une deuxième ligne? Si c'est le cas, septième, c'est beaucoup trop élevé. Ou est-ce un gars qui pourrait devenir justement un futur centre numéro un, two-way, avec pas nécessairement le plus gros potentiel offensif, mais un gars quand même assez dominant? On parle de, je sais pas, un potentiel peut-être de 70-75 points. Est-ce que ça peut être ça? Puis tu sais, quand je dis justement une récolte de 70-75 points, on voit ça beaucoup négativement. On dit que c'est pas assez. Puis évidemment, tu sais, quand on regarde les championnats des pointeurs depuis quelques années dans la Ligue nationale, des gars qui font des 100, 110, 115 points, on se dit que 70, 75, 80 points, c'est plus suffisant. Mais dans les faits, beaucoup de centres qui ont dominé dans les dernières années, je dirais peut-être l'ère pré-McDavid, et puis des centres qu'on voyait dans notre soupe qu'on souhaitait tant qu'il y ait des joueurs comme ça à Montréal, ils n'ont pas tous eu des grosses contributions offensives. T'sais, Jonathan Toews n'a eu qu'une seule saison de plus de 80 points. C'était en 2018-2019, donc c'est quand même assez récent. Mais toutes ces grosses années, il se tenait dans ça, le 65 à 75 points. Donc, c'était même pas une récolte d'un point par match. Évidemment, maintenant, la Ligue score un peu plus que ça. Mais Hanzi Kopitar, qu'on considérait également comme un des meilleurs centres numéro un de la Ligue, je pense qu'il y a eu deux saisons de 80 points. Donc, c'est ça, une de 81 points en 82 matchs. Une saison de 90 points, mais le reste, il a amassé son 70-75 points. Son 60-75 points. Puis tout le monde le voyait dans sa soupe quand même. Patrice Bergeron, un peu la même affaire. Bergeron, en fait, sa meilleure saison, ou une de ses meilleures saisons, sa deuxième meilleure saison, c'était à sa deuxième saison, 73 points en 81 matchs. Sa meilleure saison, 79 points en 65 matchs. Évidemment, Bergeron a quand même manqué beaucoup de parties, a rarement joué toutes les saisons, mais on parle quand même d'un gars qui se tenait dans le 50 à 70 points également. Donc, faut arrêter de voir ça si négativement lorsqu'on parle d'un joueur qui va atteindre un potentiel de 65, 70, 75 points. Par ailleurs, le Canadien de Montréal, il n'y en a pas plus des tonnes dans les dernières années de ces joueurs-là. Puis tu sais, j'inclus un peu Ryan Leonard dans cette discussion-là parce que lui aussi, c'est un gars qu'on juge que n'a pas le plus gros upside offensif, qu'on parle de peut-être un 65, 70 points, 80 points dans le meilleur des cas. Mais pour remettre en contexte, depuis le lockout donc de 2004, donc presque depuis 20 ans, des gars de 60 points, il y en a eu 23. Donc, c'est pas beaucoup, là, c'est quasiment maximum un par année, tu sais. Puis il y a eu beaucoup d'années qu'il n'y en a pas eu. Des gars de 65 points, il y en a eu 11. Des gars de 70 points, il y en a eu 4. Puis tout ça est inclus là, parmi les 23 à 60 points. Puis des gars de 80 points, il y en a eu un seul dans les 20 dernières années. C'était Alexei Kovalev en 2007-2008, 84 points en 82 matchs. Puis avant ça, on remonte, là, c'est Saku Koivu en 2006-2007, 75 points. Le plus récent, en fait, dans les 10 dernières années, il y a seulement eu un gars de 70 points avec le Canadien de Montréal, puis ça a été Max Domi en 2018-2019 avec 72 points. Fait que là, si tu me dis on rajoute un gars de 65-70 points là-dedans, c'est bien meilleur que tout ce qu'on a eu dans les dernières années. Évidemment, la Ligue Score Plus, je le répète, là, je veux pas. Mais si la Ligue Score Plus, je pense que c'est juste parce que les joueurs sont meilleurs, là. Mais bref. Donc c'est ça. Au 8e rang, j'avais mis Mitchkov à Washington. Pas besoin de repasser là-dessus trop longtemps. 9e rang, Oliver Moore. Puis tu vois, ça, c'est un joueur que. Pour moi, ça crie Détroit. Je crois que c'est un joueur que Détroit peuvent avoir beaucoup d'intérêt envers lui. Détroit aime les gars au gros moteur, aime les gars rapides, aime les gars efficaces. C'est tout ce que Moore est. Je crois que c'est un peu tôt par rapport à ce qui va sortir réalistiquement. Quoique, je ne sais pas, il est classé où sur les listes des autres équipes. T'sais, évidemment, il a droppé depuis le U18 parce qu'il était relégué à un rôle beaucoup plus défensif. Tandis que lors de la saison, il était nez à nez avec Will Smith et Leonard. Donc bref, moi j'ai hâte de voir, mais c'est là que je dis que Zach Benson aurait pu sortir 9e dans mon mock draft à la place de Oliver Moore. Mais bref, j'ai choisi Moore pour ce classement-là. 10e, j'avais mis Sandin Pelika. Puis j'avais dit que je pense que Pelika va sortir plus tard que ça. Je pense que ça va être un autre défenseur qui va sortir 10e pour les Blues. En fait, je suis pas mal convaincu que les Blues vont y aller pour un défenseur. Là. C'est une équipe qui doivent rajouter des défenseurs à leur pool de prospects, c'est bien eux. Mais je pense que des Willander ou peut-être même Smashev, malgré le facteur russe, risquent de sortir avant Axel Sandin Pelika. Mais ça, c'est mon opinion. On va voir le 28 juin. 11e, j'avais mis Zach Benson à Vancouver. 12e, Matthew Wood. Gros bonhomme avec un gros upside potentiel. En Arizona, c'est ce que je vois vraiment pour eux autres. Il aurait également pu prendre Colby Barlow, mais Barlow, je l'ai mis au rang suivant, 13e à Buffalo. 14e, Gabe Perreault. À Pittsburgh. Avec le recul, ça aussi, je pense que Perreault va glisser. Il y avait évidemment un peu de saveur du jour, saveur du moment à cause du championnat des moins 18 ans. Je pense que Perreault, réalistiquement, va sortir davantage entre 18 et 26, mettons. Puis que les Pingouins vont davantage y aller avec un gars comme Braden Yeager ou Nate Danielson. Quoique, ce que j'expliquais dans mon mock draft, c'est que Pittsburgh s'en vont vers une reconstruction longue et pénible avec la fin de l'ère Crosby, Malkin, Letang, et qui se doivent d'essayer de faire un home run. Est-ce que ça va être un gars comme Perreault, comme Crystal, ou ils vont y aller avec un choix plate à la Danielson ou Yager? Je sais pas. Les deux scénarios se peuvent, mais je pense que c'est ça. Ils vont chercher un attaquant avec un bon upside offensif. 15e, j'avais mis Danielson. 16e, Willander à Calgary. Mais ça pourrait également. Je pense que Sandin Pelika, 10e, puis Willander, 16e, pourrait très bien être swappé. Puis peut-être même Smashev, là aussi, là, un défenseur là, que j'aime bien. On entend beaucoup de rumeurs présentement comme quoi le Canadien pourrait faire un échange dans le but de s'avancer au repêchage. Ou même de reculer au repêchage. Pour avancer, moi j'y crois. Je pense qu'un swap pour le 4e choix avec San Jose se pourrait très bien. Si San Jose a de l'intérêt autant pour Will Smith, Carlson que Mitchkov, et qu'ils se disent on va ramasser celui des trois qui reste, ça nous va. Je crois que ça serait l'équipe candidate pour reculer. Je ne crois pas que Anaheim, Columbus ou encore moins les Hawks soient prêts à reculer. Mais je crois qu'un swap 4 et 5 entre les Sharks et le Canadien pourrait se produire. Et le Canadien a les outils dans sa petite poche arrière pour pouvoir faire ce genre d'échange. Le Canadien a énormément de jeunes espoirs et a également d'autres choix au repêchage. Donc, pour une équipe qui est en reconstruction comme les Sharks, ce genre d'échange-là pourrait être intéressant. Surtout s'ils disent, regarde, le Canadien n'a pas d'intérêt pour Mitchkov, nous autres on le veut, let's go, on swap 4-5e, ils s'en vont chercher le joueur qu'ils veulent, on punk quand même Mitchkov, puis en plus on se ramasse un espoir en plus de ça. Je pense que ce serait win-win pour les deux équipes. Toutefois, on entend aussi beaucoup parler que le Canadien pourrait reculer au repêchage. Disons le scénario que le Canadien n'a pas d'intérêt pour Matvei Mitchkov, puis là, on va y revenir, mais je dis pas s'ils doivent en avoir ou s'ils doivent pas en avoir. C'est leur choix, c'est leur décision. puis on... en tout cas, bref, mettons le scénario que le Canadien n'a pas d'intérêt envers Michkov, ou qu'au contraire, c'est Will Smith qui est disponible et que le Canadien veut rien savoir de Will Smith. Ça aussi, ça pourrait se produire. Le Canadien pourrait reculer pour aller chercher soit un Leonard, Dvorsky, Benson je sais pas, name it, là, Oliver Moore. Sauf que le problème, c'est que les équipes qui sont 6e, 7e et 8e, donc l'Arizona, les Flyers et les Capitals, je ne crois pas que c'est des équipes qui soient en mesure d'échanger des atouts dans le but de grimper au repêchage. Surtout que la valeur du choix du Canadien, 5e, est très élevée à mon avis, parce qu'on parle qu'il y a un gros top 5 dans ce repêchage-là. On parle, tu sais, avec Smith qui fait maintenant partie des discussions. Donc l'Arizona, je pense pas qu'ils vont épuiser leur banque d'espoir dans le but de monter d'un rang. Les Flyers, ils n'ont pas grand-chose à échanger, les Capitals encore moins. Donc je vois pas le Canadien vraiment reculer, à moins de reculer jusqu'au 9e rang peut-être, avec Détroit. Mais je serais un peu déçu honnêtement si c'était ça qui arrivait. Quoique au 9e rang, il risque d'avoir d'excellents choix. Évidemment, ce qu'on peut recevoir en retour aussi pourrait être intéressant. D'ailleurs, les Red Wings qui ont 3 choix de 2e ronde, back-to-back, milieu de 2e. Il y a de quoi qui pourrait être intéressant peut-être là-dedans. Mais c'est pas l'avenue que moi je prendrais. Moi, soit on swap avec les Sharks, soit qu'on reste 5e. Maintenant, avoir 5e, c'est quoi que le Canadien veut repêcher, mais ça, on n'est pas dans leur bobette. Parlant de Ryan Leonard, moi, c'était mon choix au 5e rang pour le Canadien. Dans un scénario qui n'ont pas de désir d'avoir Matvey Michkov, c'est ça. Est-ce que Ryan Leonard va faire plus de points que Matvey Michkov ou Will Smith? Probablement pas. Mais je crois que c'est le genre de joueur que son impact va être non négligeable. J'ai abordé le sujet tantôt, on parlait là, qu'on voit de manière négative des joueurs qui font 70 points. Il n'y en a pas dans le Canadien, il n'y en a pas eu depuis des années. Même si Leonard fait juste 70 points et que Smith en fait 90, je pense que l'impact que Leonard peut apporter, parce que Leonard... c'est un gars qui frappe, c'est un gars qui joue avec intensité, c'est un gars qui va exceller en séries éliminatoires, c'est un gars qui joue très, 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 très bien two-way, un des meilleurs joueurs two-way du repêchage. Tu sais, je disais que Smith joue comme un ailier, mais il est au centre, mais Leonard, c'est un ailier qui joue comme un centre. Par ailleurs, je crois, ça c'est vraiment une prédiction, je crois que Leonard va être muté au centre l'an prochain dans la NCAA. En fait, Perreault, Smith et Leonard s'en vont tous les trois pour Boston College, les trois pour la même équipe dans la NCAA, mais je crois qu'ils vont les séparer et ou que Leonard va prendre le rôle de centre. Mais bref, je vois Leonard être muté au centre dans la NCAA. C'est déjà le rôle qu'il y a au sein de l'équipe. Un peu comme Cutter Gauthier l'an dernier. Gauthier, qui était un ailier, en fin de saison, il jouait au centre, puis finalement cette année, il joue au centre. Je vois une mutation comme ça dans le cas de Ryan Leonard. Est-ce que dans la Ligue nationale, il va être un centre? Peut-être, en fait, ça va dépendre justement de dans quelle équipe qui est, premièrement, et deuxièmement, ça va être quoi son réel upside offensif. Je pense que si on le met sur une première ligne ou peut-être même une deuxième ligne très offensive, il va être mieux à l'aile, surtout s'il joue avec d'excellents joueurs. T'sais, mettons, si on le met avec Caulfield, Suzuki, moi je le mets à l'aile, c'est sûr. Toutefois, si jamais il n'atteint pas tout à fait son potentiel et qu'on parle plus d'un joueur d'énergie de 50-60 points, puis qu'il joue plus dans un middle six, donc deuxième, troisième ligne, ben là, je le vois comme un centre. Donc, en tout cas, moi, c'est ce que je vois en Ryan Leonard. Puis c'est ça, c'est que les gens voient juste, je crois, les points et ne voit pas l'ensemble de la chose. Peut-être que c'est moi qui surévalue Leonard aussi, mais je vois ce genre de joueur-là, un joueur hyper complet, hyper intense, hyper rapide avec un bon lancer. Je vois pas comment ce gars-là ne peut pas bien fonctionner dans la ligue. Donc, est-ce qu'il va faire un point par match? J'en doute, Mais c'est ça, toute la part qui vient autour de ça, moi j'y crois. Les gens veulent juste un gars qui va bien paraître sur HockeyDB, mais regarde pas, c'est ça l'impact général. Tu sais, les styles, les joueurs de ce style-là, les joueurs à la Ryan Leonard, c'est pas eux qui vont te faire gagner ton pool de saison, malheureusement, mais c'est le genre de joueurs qui vont t'apporter des coupes Stanley à ton équipe. Tu sais, on le voit d'ailleurs avec les joueurs des équipes qui restent présentement en séries éliminatoires, ou du moins les équipes qui se sont rendues loin. Tu sais, il y a beaucoup de ces joueurs-là, d'énergie, des joueurs intenses. Puis tu sais, les joueurs, justement, la Panarin et tout ça, ils ont pas fait long feu en série, tu sais. Puis même les Devils que j'adore et que je respecte, ils ont pas passé la deuxième ronde, tu sais. Par ailleurs, parmi le carré d'as qui s'est rendu justement en demi-finale, il y avait juste deux joueurs parmi le top 30 des pointeurs de la Ligue nationale en saison régulière qui faisaient partie justement de ce carré d'as-là. Mathieu Tkachuk et Jason Robertson. Tous les autres joueurs du top 30 des pointeurs de la Ligue nationale en saison régulière ne sont pas rendus dans le carré d'as. Donc, la saison et les séries, c'est deux choses complètement différentes. Donc, bref, c'est tout ce que je voulais dire. Également, juste simple petit rappel aussi, juste pour tourner le couteau dans la plaie, parce que là, c'est ça, la Floride est officiellement en finale contre les Golden Knights de Vegas. Le choix de la Floride, qui va donc être 31 ou 32e, et ce choix appartient aux Canadiens de Montréal. Simplement pour vous rappeler que il y a quelques mois, mettons en décembre, on croyait encore que ce choix-là allait potentiellement être dans le top 10 du repêchage. Ensuite, ça a glissé, on se dit « Bah, ça va être top 16, c'est pas si pire. » Finalement, les Panthers se sont classés pour les séries, donc le choix était tombé 17e. Et conditionnellement, s'ils se rendaient dans le carré d'as, donc en finale de conférence, le choix allait glisser 29e ou 30e. Et maintenant qu'ils ont atteint la finale, le choix va être 31e ou 32e. Mais simplement pour vous rappeler que si les Panthers ont fait les séries et que le choix a passé de 16e à 31-32e, c'est tout simplement parce que les pauvres Blackhawks de Chicago ont battu les Penguins de Pittsburgh lors du dernier match. Chose qui n'était pas supposée arriver. Et à cause de ça, Pittsburgh n'a pas dépassé Floride dans le classement et la Floride s'est classée. Ça fait mal. Raison de plus pour en vouloir aux Blackhawks. Beaucoup de rumeurs autour de David Reinbacher qui pourrait sortir 5e par le Canadien. Honnêtement, j'y crois pas. Je sais qu'on en a parlé tantôt. Je vois pas pourquoi le Canadien irait chercher un défenseur, comme je disais tantôt, à part si c'est pour aller chercher le prochain Victor Hedman. Gaspez pas un choix top 5 pour ça. Le Canadien a déjà une des meilleures banques d'espoir à la défense de toute la Ligue. On a besoin de punch à l'attaque. On a besoin de compléter ce top 6-là. Donc, ça prend un attaquant. La seule raison pour laquelle... En fait, je vois deux raisons pour lesquelles le Canadien pourrait avoir de l'intérêt pour Reinbacher. Premier scénario, le Canadien pourrait réaliser un échange comme l'an dernier, un échange à la Kirby Doc. Donc, échanger un de leurs jeunes défenseurs contre un attaquant soit déjà établi ou soit un autre prospect. Je veux pas lancer le nom du bois là-dedans, mais tu sais, vous voyez le genre d'échange. Ce qui pourrait libérer une place, si on parle, mettons, d'échanger un maillot ou quoi que ce soit, ça libérerait une place justement dans le pool de prospects. Puis là, Reinbacher pourrait devenir intéressant. L'autre cas, je viens justement de parler de Logan Mailloux. On a su hier que l'organisation, la direction du Canadien de Montréal, aurait demandé à Gary Bettman et la Ligue nationale de se rencontrer au sujet de Logan Mailloux à la fin des séries des séries éliminatoires et avant le repêchage. Donc, est-ce que c'est parce qu'il y a encore des doutes que Mailloux va être éligible pour jouer dans la Ligue? Donc, est-ce que justement le Canadien, c'est pour se rassurer là-dessus ou est-ce que c'est pour justement échanger Mailloux dans le but d'aller chercher Reinbacher? Fait que bref, je pense si le Canadien va chercher Ryan Backer, c'est qu'un défenseur qui bouge, il y a quelque chose qui se passe. Parce que juste aller chercher un défenseur en ce moment puis que rien d'autre bouge, pour moi, c'est un non-sens. Également, Adam Fantilli, les gens sont encore durs à son égard. Les gens ne comprennent pas pourquoi il est encore classé deuxième. D'ailleurs, on va y revenir tantôt quand je vais parler des différents mock drafts. Mais Fantilli est classé deuxième dans toutes... Ben, j'ai dit mock draft, mais excusez les listes de classement. Fantilli est classé deuxième dans toutes les listes de classement que j'ai regardées. Donc, les gens ne l'ont vu jouer qu'au U20, au championnat des moins de 20 ans, et maintenant au championnat junior, championnat mondial, pardon. J'aurais espéré qu'il y ait un gros tournoi, pardon, pour clouer le bec à certains. Mais en réalité, c'est ça. C'est qu'il y a tellement dominé toute l'année, on peut pas oublier tout ça juste en raison de ces tournois-là. Je peux même pas dire qu'ils ont été décevants. Pour moi, il a pas mal joué. On a déjà parlé de sa performance au championnat junior. Tu sais, des gars de 17-18 ans qui jouent au U20, il y en a pas une tonne. Évidemment, Bédard, il y a eu un tournoi historique. Ça vient éclipser un peu ce que Fantilli a fait. Mais tu sais, Fantilli a eu un meilleur tournoi des moins de 20 ans à son année de repêchage que Nathan MacKinnon a eu, tu sais. Est-ce que MacKinnon a mal viré? Pas du tout. Puis là, c'est un peu la même chose avec le championnat mondial. Des joueurs à leur année de repêchage qui jouent au championnat mondial, il n'y en a pas eu des tonnes. Évidemment, on pense à des Patrick Laine, Kaapo Kakko, Juraj Slafkovský, Austin Matthews, Jack Eichel, qui ont joué à leur année de repêchage puis ont vraiment bien fait, voire même dominé. Ça a malheureusement pas été le cas avec Adam Fantilli, mais tu sais, il y a d'autres joueurs pour qui ça n'a pas été le cas non plus. Tu sais, Jack Hughes également, il y avait eu. Ben, en fait, Fantilli a fait 3 points en 10 matchs. T'sais, Jack Hughes, 3 points en 7 matchs. Mais tu sais, on regarde après ça, Ovechkin, 2 points en 6 matchs. Kessel, 2 points en 7 matchs. Fiala, 2 points en 7 matchs. Andy Kopitar, 1 point en 6 matchs. Certes, il jouait pour la Slovénie. Même Nicholas Backstrom, 0 point en 4 matchs. C'est pas tous les joueurs à leur année d'admissibilité au repêchage de la Ligue nationale qui dominent dans ce championnat mondial-là. Évidemment, c'est difficile de comparer les années parce que la qualité de ce tournoi-là varie beaucoup d'une année à l'autre. Par ailleurs, moi, c'est un tournoi que cette année, j'ai trouvé tellement plate et sans saveur. En fait, depuis quelques années, là, c'est un tournoi que je trouve qui en arrache beaucoup. Cette année, pour vous donner juste une idée, puis ça va être tout ce que je vais dire sur le championnat mondial, là, je ne veux pas trop revenir là-dessus, mais tu sais, le top 5 des pointeurs, ça a été Rocco Grimaldi, Dominik Kubalik, JJ Peterka, Mackenzie Weegar, puis Riads Boukarts. J'ajouterai même au sixième rang TJ Tynan. Fait que ça, c'est votre top 6 des meilleurs pointeurs du tournoi au championnat du monde. Là, est-ce que Fantilli aurait dû dominer dans ce genre de compétition-là? Peut-être, mais tu sais, il a été 13e attaquant pour la moitié du tournoi. T'sais. Il n'a pas eu tant de glace que ça. Certes, il a joué sur le PP2, sur le deuxième avantage numérique, mais souvent, tu sais, il y a eu des trios avec... il a joué avec Glass puis Lucic. C'était vraiment plus un peu comme au championnat des moins de 20 ans, dans un rôle défensif, dans un rôle d'énergie. Et non, il était non placé dans un rôle pour driver l'attaque. Puis tu sais, d'ailleurs, Mikko Rantanen, un des meilleurs joueurs de la ligue, un des meilleurs ailiers droits de toute la ligue, 9 points en 8 matchs, il se retrouve 14e meilleur pointeur du tournoi. Pour moi, ça aussi, c'est un non-sens. Je disais tantôt que le Canadien a une grosse banque d'espoir à la défense, mais certes pas autant que les Ducks d'Anaheim. Juste un petit shout-out de même en passant. Les Ducks d'Anaheim, 3 de leurs prospects à la défense. En fait, je vais le dire autrement, dans la Ligue canadienne de hockey junior, la CHL, il y a 3 ligues, la Q, la Dub et la OHL. Et leurs défenseurs ont gagné dans les 3 ligues défenseurs de l'année. Donc, Olin Zellweger, défenseur de l'année dans la WHL. Pavel Minchukov, défenseur de l'année dans la OHL. Et Tristan Luneau, défenseur de l'année dans la LHJMQ. Ça fait peur. Ça fait vraiment peur. Également, tantôt, on parlait de Mayhew puis d'échange potentiel puis de monter au classement. J'ai oublié de dire, je m'étais pris une note. Faudrait que je commence à les noter davantage. Les propositions farfelues d'échange soumises par les partisans sur les différentes pages dans les réseaux sociaux. Partisans qui se croient dans franchise mode sur NHL. Ma préférée disait que le Canadien pourrait échanger contre les Hawks pour aller chercher leur premier choix, et donc Connor Bedard, en échange du 5e overall et de Logan Mayhew. C'est tout ce que je vais te dire à ce sujet. Maintenant, Matvey Michkov, j'ai dit que je voulais pas trop revenir sur le sujet. On en a déjà parlé là, de long en large. Puis tu sais, je persiste à dire que peut-être qu'il va glisser, peut-être qu'il glissera pas. Puis je veux pas me commettre là-dessus parce que je le sais pas. Puis vous non plus, vous le savez pas. Puis personne le sait. Puis je sais même pas à quel point les équipes de la Ligue nationale ont toute l'info ou ont suffisamment d'infos pour prendre une décision éclairée à cet égard-là. Et je fais pleinement confiance aux décisions qui vont être prises par les différentes organisations. Si Michkov est disponible au cinquième rang et que le Canadien décide de passer par-dessus, on voit des commentaires passer comme quoi ça serait la pire erreur de l'histoire du Canadien, blablabla. Bla, bla. Si l'organisation décide de prendre cette décision-là, c'est qu'ils ont des doutes raisonnables de croire qu'il y a quelque chose qui cloche ou qu'il y a des red flags. Et on se doit de respecter ça. T'sais. Ils sont beaucoup mieux placés que vous et moi et que les autres pseudo-experts qu'on peut entendre sur les différents réseaux sociaux. On le sait pas. On lit toute la même affaire. On y va toutes de spéculation et tout ça. Mais il y a personne d'entre vous et moi qui sont pluggés avec la Russie ou avec l'équipe de Michkov. Et même l'équipe de Michkov, est-ce qu'ils disent la vraie information? On le sait pas. On peut tomber rapidement dans les conspirations également et toutes sortes de choses. Puis l'information qu'on voit tous, qu'on a accès, varie tellement d'une semaine à l'autre, voire même d'une journée à l'autre. Tu sais, plus tôt cette semaine, on entendait dire, venant d'un assistant coach de l'équipe justement de Michkov, un assistant coach qui est canadien, qui est ontarien, je crois, qui disait que, hey, faites-vous-en pas avec Michkov, là, tu sais, après son contrat, il va venir jouer dans la Ligue nationale, il va être dominant, tu sais, faites-vous-en pas, il n'y a aucun red flag à son sujet, il n'y a aucun problème d'attitude, etc., etc., que du positif. Puis le lendemain, Mathias Brunet parlait que, au contraire, Michkov était dans un environnement toxique, etc., etc. Tout le monde peut dire ce qu'ils veulent, on le sait pas, puis on le saura probablement pas. Par ailleurs, Michkov ne sera pas au Combine de cette semaine. Cette semaine, c'est le Combine de la LNH qui dure, je pense, sur 4 jours. Mais aucun joueur russe n'a été invité parmi les 106 joueurs invités. Ça aussi, pour moi, il y a un certain red flag. Est-ce que c'est juste un move politique de la Ligue de dire, ben, regarde, on n'invitera pas de joueurs russes, mais on accepte quand même qu'ils se fassent repêcher et qu'ils jouent dans la Ligue? Ou est-ce au contraire simplement une technicalité comme quoi que ils veulent que les joueurs russes soient au repêchage et de les faire voyager deux fois dans le même mois pour un pays qui est en guerre, c'est peut-être un peu difficile, un peu compliqué. Je sais pas trop comment ça fonctionne, les in and outs là, que des personnes peuvent faire dans ce pays-là. Donc peut-être c'est simplement ça, mais est-ce que ça cache quelque chose de plus gros? Ni vous ni moi le savez, on ne peut que spéculer là-dessus, et c'est pour ça que je dis, faisons confiance aux équipes, faisons confiance à l'organisation du Canadien, et d'ailleurs je le répète, s'il y a bien une équipe qui est bien pluggée avec la Russie, et particulièrement avec le SKA de Saint-Pétersbourg, l'équipe de Matvey Michkov, c'est bel et bien le Canadien de Montréal, qui ont encore les pieds dans cette équipe-là via Nick Bobrov, que c'est un ancien de cette organisation-là et que son père est encore consultant pour l'équipe. Par ailleurs, par rapport à Matvey Michkov, je vais retomber là-dessus, mais on sait que son père a été malheureusement retrouvé décédé dans un étang en Russie au mois de mars, si je ne m'abuse. Mais statistique intéressante, en étant sélectionné par une équipe de la Ligue nationale cette année, son père et lui deviendront le premier duo père-fils à être repêché la même année. Bon, ça, c'est dit. Alright. Bon, maintenant, pour parler des... le temps file, ça fait déjà 45 minutes que je parle. J'ai de la misère à bien planifier mes épisodes. Je pensais parler 20 minutes de ce que je viens de parler. Finalement, j'ai fait le double. Je pense que je vais l'évaluer à l'avenir. Je vais tout le temps faire x2 autant que j'estime pour chaque segment. Je vais revenir maintenant sur différents mock drafts qu'on a vus. Ben, en fait, en particulier, deux mock drafts que je vais vraiment passer très vite avant de tomber vraiment dans les listes de classement final des différents analystes. Mais Corey Prondman de The Athletic a sorti deux mock drafts. Il en a sorti un personnel et un qui a fait avec Scott Wheeler. Lui avec Scott Wheeler, je disais d'entrée de jeu que ressemble drôlement à moi, à celui que j'avais fait. Puis ça me rassure. J'avais reçu des critiques comme quoi, c'est ça, mon mock draft sortait un peu des sentiers battus. Puis je disais tantôt que 9e rang, je regrettais de pas avoir mis Zach Benson à la place d'Oliver Moore. Puis que 10e, même j'en parlais pendant le mock draft, que je pense que c'est Tom Willander qui va sortir à la place de Sandin Pelika. Pis c'est exactement ça que Wheeler puis Prondman ont fait. En fait, la seule différence qu'il y aurait, c'est qu'ils ont switché Smith puis Carlson. Eux autres, ça fait Bedard, Fantilli, Smith, Carlson, Leonard. Donc Leonard, 5e à Montréal. Rinebacker, Dvorsky à Philly. Michkov à Washington. Puis là, c'est ça, Benson. Moi, j'ai mis Moore, mais j'aurais dû mettre Benson. Et Willander, 10e. Donc après ça, là, c'est un peu plus wild, mais c'est ce qu'ils projettent. Sinon, ils ont Vancouver Danielson, Arizona Hanzek, Buffalo Perreault, Pittsburgh Jagr, Nashville Oliver Moore et 16e Sandin Pelika. Et c'est également ce que je vois, là, que s'il y a des candidats pour aller chercher des défenseurs, c'est Arizona 6e ou 12e, Saint-Louis 10e et Calgary 16e. Je pense que ça va être nos trois. On va voir trois défenseurs sortir dans le top 16. Ça va être parmi trois de ces quatre classements-là. Sinon, Prondman, il a refait un mock après ça tout seul. Donc, Chicago, Bedard. 2e rang, Anaheim, Fantilli. 3e rang, Columbus, Carlson. Jusque-là, c'est standard. 4e rang, San Jose, Will Smith. Ça, je peux le voir. Mais là ça, c'est là que ça devient funky un peu. 5e rang, Montréal, David Rinebacker. Puis je le vois pas, il n'y a pas vraiment de justification pour pourquoi il choisit ça. Puis note que ça pourrait très bien être Michkov ou Leonard à la place. Mais en fait, ce qu'il dit, c'est que il pense que Rinebacker est en très haute estime dans la plupart des listes des équipes, et je pense que c'est un peu de là que vient aussi la rumeur, où il s'est basé aussi sur la rumeur comme quoi Montréal a beaucoup d'intérêt envers Rinebacker. Donc bref, Rinebacker 5e à Montréal, 6e Arizona, Ryan Leonard, puis j'en parlais tantôt, Leonard en Arizona, ça serait incroyable. 7e rang, Philadelphie, Nate Danielson. Ça, j'aime ça. Moi, j'avais mis Dalibor Dvorsky, puis c'est ce qu'il avait mis aussi dans son autre mock draft avec Wheeler. Mais Nate Danielson, je le verrais bien à Philadelphie, ou je verrais également Zach Benson. Sauf que vous allez voir tantôt dans le prochain segment, mais Prondman n'est vraiment pas un fan de Benson, ou du moins, il met vraiment loin dans son classement. Fait que je pense pour ça qu'il a préféré Nate Danielson. 8e, Michkov. Pour moi, si Michkov glisse, c'est écrit dans le ciel que c'est Washington qui saute dessus. 9e rang, Détroit, Dalibor Dvorsky. Ça aussi, je suis surpris. Je pense que ça peut être un bon fit. Je dis je suis surpris, mais moi, je vois vraiment Benson ou Moore à Détroit. Mais je pense, ouais, Dvorsky, je le vois aussi. Je pense que ça pourrait arriver. 10e rang, il y a encore Willander. Donc, dans ces deux mock drafts, il a mis Willander 10e, puis je tends vers ça moi aussi. Donc, on se rejoint là-dessus. 11e rang, Vancouver, Matthew Wood. Donc, le gros ailier avec un bon lancer, mais un coup de patin nul à chier. C'est un home run potentiel, comme ça pourrait aussi pas faire grand chose. 12e rang, Sam Hanzek. Donc c'est intéressant, il a mis deux attaquants en Arizona. Je suis surpris. Ouais, je suis surpris. J'ai rien d'autre à dire. 13e rang, Buffalo, Daniel Booth. Ça, c'est un choix intéressant. Booth, c'est un des joueurs qui est un peu éparpillé partout dans les classements. c'est un joueur que risqué, mais avec un très haut plafond, à mon avis. Mais aussi, ça pourrait ne rien faire. Donc, Buffalo, qui est déjà en excellente position, je pense que Buffalo cherche soit des coups de circuit ou soit des joueurs middle six avec du poids et du papier sablé qui vont venir renforcer ce noyau de joueurs-là qui est déjà très, très, très solide. Ils ont beaucoup, beaucoup, beaucoup de bons jeunes Buffalo. Donc, Daniel Butch, je le vois bien comme un candidat là, mais tu sais, j'aurais aussi aimé voir, mettons, un Colby Barlow ou Oliver Moore, ça aurait été bon, mais en tout cas, c'est... ou même Braden Yeager. Fait que bref, sont allés pour le home run potentiel, l'ailier gauche, format géant de Russie, Daniel Butch. 14e, Pittsburgh, Gabriel Perreault, un peu comme j'avais fait aussi dans mon mock draft. Puis il dit, c'est ça, Benson ou Sandin Pelika seraient aussi des bons candidats. Mais moi, ça aurait été Benson. Là, Benson, il n'y a plus de raison de glisser plus que ça. Il faut que ça sorte. 15e, Nashville, il avait mis Dimitri Smachev. C'est aussi Nashville pour être un candidat pour aller chercher un défenseur. Quoique, eux autres aussi, j'aurais bien aimé qu'ils aient cherché un attaquant, là, que ce soit Barlow ou Moore. Ou même Benson. Là, on oublie que Benson est encore sur le board. 16e, Sandin Pelika. Ça aussi, je pense que ça va être un choix logique. Puis il a mis Benson à Détroit, 17e rang, alors qu'il aurait pu l'avoir au 9e. Puis pour votre info, suivant ensuite au 18e rang, Winnipeg Barlow. Et 19e rang, Chicago Oliver Moore. Et ensuite, Braden Yeager. Donc après ça, je pense qu'il n'y a pas tant de gars qui slide. Là, c'est vraiment les choix principaux. Bon, ensuite. Pour les classements, ça c'était vraiment des mock drafts là, que je trouvais intéressant, que je voulais rediscuter. Mais maintenant, pour les classements finaux, donc c'est vraiment des classements qui sont sortis depuis le championnat junior des moins de 18 ans, j'ai répertorié une douzième de sources différentes, des sources que je juge fiables. Donc évidemment, Corey Pronman, Hockey Writers, Hockey News, McKean's Hockey, Sportsnet, SMAT Scouting, Recruit Scouting... The Boy, Simon Servant, que vous connaissez peut-être, Daily Face-Off, etc., etc., d'autres sources. J'ai fait, c'est ça, des moyennes de leur classement, voir un peu comment ça se passe, puis les joueurs se retrouvent où. Et beaucoup de surprises, beaucoup de choix éparpillés. En fait, c'est incroyable. Une des choses qui m'a sauté aux yeux, c'est que dans 100% des cas, numéro 1, Bedard, ça, c'est correct. Et numéro 2, Fantilli Michkov n'est pas numéro 2 dans aucun des classements, alors que je pense que c'est assez consensuel que, en termes de talent offensif, Michkov est deuxième. Par ailleurs, c'est une question que j'avais lancée au deuxième épisode puis que je voulais aborder aujourd'hui, mais on va l'aborder au prochain repêchage. Mais c'est quoi le meilleur joueur disponible? Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que c'est le gars avec les meilleures mains ou le meilleur ensemble de playmaking ability avec le meilleur lancer, avec un bon coup de patin? Est-ce que justement le coup de patin, les lacunes défensives et le gabarit peuvent jouer justement là-dedans? Non, c'est quoi le meilleur joueur disponible? Est-ce qu'on parle de c'est qui est meilleur aujourd'hui ou c'est qui va être le meilleur dans 6 ans? Est-ce qu'on parle justement en termes purement de plafond, mais est-ce qu'on inclut le plancher également là-dedans? C'est là que ça devient difficile de comparer justement un gars comme Matvey Michkov qui domine offensivement, qui a un des meilleurs lancers du repêchage, qui a un des meilleurs IQ du repêchage, mais qui n'a pas nécessairement qui a des mains sensationnelles, mais qui n'a pas nécessairement le meilleur coup de patin et qui, défensivement, il est complètement inexistant. Un peu les mêmes critères que Will Smith versus un gars comme Adam Fantilli, qui est bon dans à peu près tout, mais, bon, évidemment, il a un excellent lancer, coup de patin puis des mains, mais il n'est pas élite nécessairement dans toutes ces catégories-là. Donc c'est là que ça devient intéressant et difficile de les classer. Mais bref, Bedard, Fantilli, premier, deuxième dans tous les classements que j'ai regardés. Ensuite, troisième, Savary. Troisième, c'est tout le temps Michkov ou Carlson. Quatrième, là, c'est intéressant. Souvent, on a Carlson. On a Will Smith à quelques occasions. On a Benson une fois également. En fait, c'est Recruit Scouting qui met Benson devant Will Smith au cinquième rang. Et cinquième, là, c'est ça aussi, c'est all over the place. Évidemment, souvent, on a Will Smith. On a Michkov à quelques occasions. Ça, je suis surpris dans un classement vraiment de talent et non dans un mock draft. On a Benson à deux reprises, Dvorsky à une reprise et Oliver Moore également à une reprise. Par ailleurs, Smith, qui est... tu sais, on parle que Michkov est un des joueurs les plus polarisants, mais je crois qu'au sein des équipes, Will Smith pourrait être un des joueurs les plus polarisants. Évidemment, un des meilleurs IQ, un des meilleurs passeurs de tout le repêchage, possiblement les meilleures mains de tout le repêchage, un coup de patin que certains jugent comme étant déficient, est vraiment un moteur qui manque de jus. C'est pas le joueur le plus travaillant, mais le potentiel offensif est excessivement là. Et c'est là que ça revient un peu à c'est quoi le meilleur joueur disponible, tu sais, versus un Zach Benson qui a des qualités offensives similaires, mais qui a un moteur excessivement élevé, qui est un des meilleurs joueurs two-way de tout le repêchage, mais qui fait 5 et 9, 5 et 10, puis que c'est ça son coup de patin aussi, on le remet en question. C'est là que personne ne s'entend. J'ai l'impression qu'on accorde beaucoup d'importance dans nos visionnements au maniement de rondelles. J'ai l'impression qu'un joueur justement comme Smith qui fait des feintes époustouflantes est tellement le fun à voir jouer que souvent il est plus haut dans nos classements. Bref, ça c'est mon take sur Smith là. Vous savez que c'est pas mon préféré et je le répète, je pense que ça pourrait être un des joueurs qui a la meilleure production pointière de cette QV-là au final dans 10 ans, mais je pense pas que ce soit le genre de joueur qui va être un leader qui va t'amener en finale de Coupe Stanley. Je continue mes comparaisons avec les Kuznetsov et Panarin de ce monde. C'est vraiment ce que je vois en lui. C'est correct si vous l'aimez. Puis oui, c'est un des joueurs les plus électrisants, les plus fun à voir jouer, du moins en zone offensive, du repêchage. Mais pour moi, c'est le genre de joueur frustrant également défensivement que moi, personnellement, et là, on est vraiment dans les préférences personnelles. Moi, c'est pas le genre de joueur qui me fait triper dans l'ensemble. Je préfère des joueurs qui vont peut-être amener 10-15 points de moins dans une saison, mais qui vont être travaillants, puis qui vont être là tous les matchs, puis qui vont être clutch. Mais comme je dis, c'est vraiment des préférences personnelles, puis... Puis tu sais, je veux pas me chicaner avec personne là-dessus. Je sais que ça déplaît à beaucoup de monde quand je dis des affaires de même parce que il y a comme un gros classement consensuel qui semble s'installer particulièrement au Québec. Puis que dès que tu dis quelque chose qui sort un peu de ça, qui sort un peu des sentiers battus, comme là, je l'ai glissé tantôt, mais pour moi, je mets Benson devant Smith. Sauf que c'est ça, j'ai l'impression, tu sais, ça fâche les gens. Les gens prennent tellement ça à cœur. Les gens ont tellement le hockey tatoué sur le cœur qu'ils deviennent émotifs quand on dit que « Ah ouais, moi, Will Smith, je l'ai pas 3-4e, je l'ai plus 5-6e. » Les gens, ça leur fait quoi? Puis ils deviennent agressifs sur les réseaux sociaux. Passez-vous de l'eau d'en face, les boys. Mais ceci étant dit, même si je considère que Benson est peut-être devant Smith dans les classements, je suis convaincu que Smith va sortir avant. Puis je peux comprendre pourquoi, tu sais, Benson, évidemment, son physique, c'est pas sexy pour personne. Puis le manque de vouloir de Smith, ça peut toujours se corriger, je crois, même si c'est un des aspects du jeu qui est très difficile à corriger. Je pense que tu l'as ou tu l'as pas. Puis des gars comme Benson puis Leonard, ça, ils l'ont. Même Oliver Moore. Bref. Will Smith, c'est ça, pour moi... possiblement un des joueurs les plus polarisants sur les listes des équipes de la LNH. Parce que là, comme je disais, je pense qu'il y a une liste consensuelle qui n'existe pas, mais qui est à quelque part dans le cloud, là, comme quoi que c'est coulé dans le béton que Will Smith est top 5, possiblement même 4e. Mais je suis convaincu qu'on regarde les listes des 32 équipes. Ça se peut qu'il y a des équipes qui l'ont 3e. Ça se peut qu'il y a des équipes qui l'ont 8e. Malheureusement, on ne le sait pas, puis on ne le saura pas. J'ai hâte de voir la journée du repêchage, comment ça va se terminer. Mais bref, juste pour vous donner une idée un peu de à quel point son range varie. dans les dans la douzaine là, de sources que j'ai analysées, il est tout le temps entre quatrième et septième. Donc, il n'y a personne qui l'a mis troisième. Ça, je suis surpris parce qu'on voyait déjà son nom sortir troisième après le U18. Comme je disais, je pense que la poussière du U18 a retombé, puis les classements redeviennent un peu ce qu'ils étaient. Mais quelques faits intéressants de Hockey News le mettre sixième et mettre Moore cinquième devant lui. Donc ça, c'est le genre de classement qu'on voyait il y a peut-être un mois ou deux de ça. Puis là, ça commence à revenir. Je trouve ça intéressant. Smat Scotting et Simon Servant ont mis Benson 5e et Smith 6e. Ça aussi, c'est intéressant. Ça ressemble à ce que j'ai également. Recruit ont mis Benson 4e, Smith 5e et Carlson 6e. Ça, j'ai été surpris aussi. Puis, un autre très surprenant. Upside Hockey. Dvorsky 5e, Leonard 6e et Smith 7e. Puis, je vais vous le dire, puis je reviens dans quelques secondes. J'ai beaucoup de respect pour ceux et celles qui ont des classements comme ça, qui sortent des sentiers battus. Parce que bien souvent, c'est eux autres qui ont raison. Donc, bref. Justement, Smat Hockey, qui avait mis Benson devant Smith, j'ai l'impression qu'eux autres, dans leur classement, parce qu'il y a beaucoup d'affaires que je trouve très wild, n'ont pas pris en considération le gabarit du joueur, mais seulement l'upside et le talent offensif. Et je crois que dans ce genre de liste-là, c'est ce qu'on devrait faire. Tu sais, je reviens à la question de c'est quoi le meilleur joueur, tu sais, puis est-ce que le gabarit doit être considéré? De ce que je vois d'eux autres dans leur liste, je pense qu'on va vraiment aller avec c'est qui va noircir le plus la feuille de pointage, ou qui a le potentiel, en fait. C'est même pas qui va le faire, c'est qui aurait le potentiel pour le faire si tous les astres sont alignés. Puis, ils ont beaucoup de petits joueurs classés très haut, et beaucoup de gros joueurs que je pense que leur valeur est boosté en raison de leur gabarit, qui sont plus loin en première ronde. Je donne des exemples de petits joueurs. Benson 5e, Sandin Pelika 8e, Gavin Brindley 9e, Andrew Crystal 12e, Jaden Perron 15e. Puis tu sais, Brindley, Perron, là, vous allez voir dans les autres listes, là, mais sont fin première, voire même deuxième. Riley Height, un des joueurs qui a le plus droppé depuis les séries dans la WHL et le championnat junior des moins 18 ans. Il est encore 17e sur leur liste. Whitelaw 23e et Mukhanov 25e. Tu sais, parmi les joueurs que j'ai nommés là, les Brindley, Perron, Whitelaw, Mukhanov, c'est tous des joueurs de 5 et 9 qui sont classés beaucoup plus loin, mais qu'on s'entend tous pour dire que le potentiel offensif est là. Et à l'inverse, des gros joueurs qui sont beaucoup plus loin dans leur classement, Dvorsky, que le trois quarts des gens s'entendent pour dire que c'est un choix top 10, est 19e sur leur liste. Sam Hanzek, 24e. Braden Yeager, 26e. Daniel Boot, 29e. Colby Barlow, 30e. Et Matthew Wood, 31e. Tu sais, dans les gars que je vous ai nommés là, il y a peut-être 4 joueurs que réalistiquement pourraient sortir dans le top 12, top 13. Puis là, ils ont toutes comme passé le 20-24e rang. Tu sais, Barlow 30e, c'est wild, là. Un autre que j'ai trouvé très wild, c'est Corey Pronman, que lui, à l'inverse, je crois qu'il n'aime vraiment pas les petits. Je veux pas repasser en détail tout son classement, mais je vais vous dire quelques joueurs que je trouve qui a fait glisser énormément, puis je trouve ça vraiment intéressant comme point de vue, bien que je sois pas nécessairement en accord. Puis encore là, je sais pas lui c'est quoi tous ces critères d'évaluation et à quel point qu'il est au courant aussi de ce qui se trame dans la Ligue nationale, mais il y a Zach Benson 17e, on en a parlé tantôt. Riley Height, un truc que je vous disais qui chute beaucoup dans les classements. En fait, juste pour remettre en contexte, Riley Height a été un des meilleurs joueurs de la WHL cette année. A eu des stats incroyables, un excellent playmaker, petit gabarit, un centre. Il a eu des séries très ordinaires, puis un championnat junior des moins de 18 ans, très ordinaire aussi. Mais il faut remettre en contexte qu'il est arrivé dans le milieu du tournoi au championnat junior. Il était garagé dans une équipe que c'était n'importe quoi, là, qui venait de se faire battre par des équipes que ça n'avait pas rapport. fait que ça a été moyen, puis il y a beaucoup droppé dans les classements, puis je crois que c'est dû à ça. Mais si vous allez voir ses stats, il y a des stats incroyables. Donc, Riley Wright, 59e. Cohen Zimmer, le coéquipier de Riley Wright, 65e. Crystal, 68e. Nick Lardis, 94e. Lardis, pas tant qu'il a droppé. Lardis, en fait, c'est un riser dans la plupart des listes. Il y a quelques listes qu'on commence à le voir là, début de deuxième, fin de première. Lui, 94e. Luca Penelli, 100e. Jayden Perron, que je vous disais là, tantôt. Perron, 15e sur la liste de Smart Hockey. 107e sur la liste de Prongman. Puis tu sais, Perron, là, toute l'année, ça a été un des joueurs préférés des gars de Elite Prospect. Si vous allez voir Elite Prospect, quand ils déterminent leur rang de leur liste, ils font un meeting, puis c'est filmé, puis ils le mettent sur YouTube après. Puis Jayden Perron était un de leurs préférés malgré sa petite taille. 107e sur la liste de Corey Prongman. Potentiellement un vol au prochain repêchage. Whitelaw, 23e sur la liste de Smart. 112e sur la liste de Prongman. Grayson Sachin, un autre des favoris de plusieurs listes qui est potentiellement première ronde, 116e. Et Timur Mukhanov, 132e. Il est 25e sur la liste de Smart. Donc, ça varie beaucoup. C'est épouvantable à quel point ça varie. Donc, dans les Fallers, évidemment, j'ai parlé de Riley Wright. Jayden Perron également pour moi. Les listes que j'ai regardées. C'est un Faller dans beaucoup, beaucoup, beaucoup de listes. Maintenant, justement, la plupart des joueurs, il y a beaucoup de joueurs que leur classement se promène vraiment partout, partout, partout. Puis un débat qui nous intéresse, en fait, c'est les défenseurs. Donc, les trois, je dirais, ou les quatre gros défenseurs là, qu'on entrevoit sortir en première ronde. Évidemment, il va y en avoir d'autres qui vont sortir, mais les quatre noms qui ressortent le plus, que ce soit Ryan Backer, Sandin Pelika, Willander et Smashev. Ça aussi, ça se déplace, c'est épouvantable. Tu sais, Ryan Backer, tu sais, je le vois ici 6e, 11e, 18e, 16e, 8e, 8e, 20e, 21e, 8e, 10e, c'est partout, partout, partout Ryan Backer. Sandin Pelika, c'est encore pire, 22e, 14e, 9e, and so on, il est 25e sur la liste de Simon Servant. Fait que bref, Sandin Pelika, c'est vraiment partout. Et pour votre information, j'ai exclu la liste de Craig Button volontairement. Je crois que sa liste, c'est du gros n'importe quoi. En fait, je crois que Craig Button est blasé et n'a regardé que le championnat junior des moins 18 ans. Et sa liste est basée que sur des joueurs du championnat des moins 18 ans. Il y a genre Sandin Pelika 6e, si je me rappelle. Un assiette d'affaires qui n'a pas de sens. Là. Mais bon. Normalement, comme je disais, j'aime les listes qui sortent des sentiers battus, mais j'ai l'impression dans son cas que c'est vraiment juste qu'il s'en foutait cette année et qu'il n'a pas regardé ben game. Il y a Dvorsky aussi des classements très surprenants. Je vous disais tantôt, Upside le mettre 5e. La plupart des listes le mettent 7e, 8e, 9e, mais il y a des listes qui le mettent plus bas. En fait, Smart Hockey le met 19e, comme on disait tantôt. Il est 14e aussi sur la liste de Recruit. Fait que bref, Dvorsky aussi, là, ça se promène pas mal. J'ai hâte de voir qu'est-ce que ça va dire. Lors du repêchage. Simachev aussi, j'en parlais tantôt dans les défenseurs, lui aussi, ça s'est promené pas mal. Je vous dirais, dans la plupart des listes, il est classé entre 9e et 14e. Mais tu sais, sur The Hockey Writers, il est 39e, 32e sur Sportsnet, puis il est fin de première ronde aussi dans quelques autres classements. Là, ce qui est plate, c'est que j'ai pas la liste de Elite Prospect et... la liste de Draft Analyst aussi qui n'est pas sortie, qui devrait sortir. Dans les deux cas, ça devrait sortir. Si c'est pas aujourd'hui, c'est demain. Donc, je pourrais peut-être en reparler lors des prochains épisodes. J'ai hâte de voir, parce qu'eux autres aussi, là, ils étaient très chauds sur Simachev et pas tant sur Dvorsky. Ils aimaient beaucoup des joueurs comme Moore et Leonard, plus que Smith. J'ai hâte de voir comment ça va bouger tout ça. Parlant de More, je vous disais tantôt que c'en est un, ça aussi, qui a bougé beaucoup. The Hockey News le met 5e, on le voit 7e, 8e, dans quelques listes également. Mais je vous dirais, d'ordre général, on le retrouve entre 10e et 16e. Le plus bas qu'on le retrouve, c'est 19e dans la liste de Corey Prondman. Moore, qui est possiblement le joueur le plus rapide du repêchage, un excellent joueur two-way, avec un excellent lancer. Peut-être qu'il ne processe pas le jeu assez vite, peut-être pas le meilleur IQ, le meilleur playmaker, mais je pense qu'il est meilleur que ce qu'il laisse voir, parce qu'il n'a pas joué avec des gros joueurs sur sa ligne non plus, à part quand il a joué avec Cole Eisenman en fin de saison et Higgins, mais... Pour moi, Moore, c'est, je le répète, là, c'est un de mes joueurs préférés de cette QV-là. Il y a Sam Hanzek et Quentin Musty aussi. Musty, ben, en fait, j'ai l'impression de ne pas en avoir parlé du tout aujourd'hui, mais lui aussi, là, c'est all over the place, là, Musty. Quelques sources qui le mettent 13e, entre 13e et 15e. Mais il y a des sources qui le mettent vraiment fin de première, début de deuxième. En fait, tu sais, je le vois ici, le 30e, 33e, 31e, 32e. Je serais surpris de voir, c'est ça, Quentin Musty, s'il va vraiment glisser autant que ça. Puis on se rappelle, je ne sais pas si c'est encore le cas, mais The Snake Boisvert, c'était un de ses joueurs préférés lors de son classement préliminaire. Je pense que c'était en décembre ou janvier, quelque chose de même, ou peut-être même avant ça. Un de ses joueurs préférés, une de ses cartes cachées potentiellement. Je ne sais pas si ça a changé depuis l'épisode. Je ne sais pas si ça va faire partie de l'épisode avec Dredd sur le tape, là. Mais j'ai hâte de voir Quentin Musty, qu'est-ce qu'il va en dire. Puis Hanzek aussi, là, c'est un peu très éparpillé. Là, ça passe du 10e rang au 34e rang. Fait que bref, Sam Hanzek aussi, c'est très, très, très éparpillé, ses affaires. Puis même Barlow aussi, ça ne fait pas l'unanimité. Barlow, que plusieurs voient comme un choix top 10, ou du moins top 12, vraiment locké. Mais dans mes 12 sources, il n'y en a que 3 qui le mettent dans le top 10. Sinon, ça varie là, principalement de 12 à 20. T'sais, je le vois ici, le 18e, 19e, 20e. Il est même 30e sur la liste de Smart Hockey, comme on disait, Smart Scouting, pardon. Fait que bref, Colby Barlow aussi, très intéressant. Je peux comprendre pourquoi on le voit plus bas. Est-ce qu'il y a une belle certitude de jouer dans la ligue? Tout à fait. Il a un beau gabarit, il a quand même un bon coup de patin pour un gars de sa grandeur. Il a un des meilleurs lancers de cette QV-là. Mais plusieurs pensent que son upside offensif, son potentiel offensif est quand même limité. Puis qu'il va être relégué, je dirais, à un joueur de deuxième, troisième trio, mais sans plus. Mais le potentiel pour devenir un marqueur de 40 buts est là dans le cas de Colby Barlow. Donc, j'ai vraiment hâte de voir comment ça va virer tout ça. Question qu'on voit passer un peu partout, ben pas sur mes réseaux sociaux parce que, comme je disais tantôt, j'avais près juste 3 followers, mais une question qu'on voit passer beaucoup, c'est qui le Canadien pourrait-il viser avec leur choix des Panthers, donc 31e ou 32e, ou encore même avec leur choix de début de deuxième ronde. Évidemment, moi, je voudrais voir le Canadien repêcher un gardien de but quand même assez tôt, possiblement avec le choix de deuxième ronde. Il y a des choix très intéressants. Je sais que c'est tôt pour aller chercher un gardien de but, mais faut que tu y voles. Faut vraiment aller chercher le meilleur gardien disponible. Je pense pas qu'ils vont sortir en première ronde, mais début deuxième, là, let's go, va prendre le meilleur gardien disponible, parce qu'un coup que le premier sort, après ça, ça sort comme des petits ponchos. Mais pour le choix des Panthers, mettons que je me fie au classement que j'ai vu là, puis que je fais une moyenne de tout ça, les joueurs qui risquent d'être disponibles. Évidemment, Ethan Gauthier, qui joue à Sherbrooke. Joueur très, très, très complet, genre de couteau suisse. Ça pourrait être intéressant, c'est un joueur québécois. Je pense qu'il pourrait avoir de l'intérêt pour ce joueur-là, mais je ne crois pas que le Canadien soit le bon candidat pour un joueur de même. Je pense qu'on a quand même déjà une coupe des joueurs comme ça, puis que le Canadien cherche vraiment plus. Je pense que c'est le choix pour essayer de faire un coup de circuit dans le cas du Canadien. Des gars qui vont jouer troisième, peut-être deuxième trio, il y en pleut dans l'organisation puis dans le pipeline. Là, en ce moment, ce qu'on veut, ça va être un gars qui va être capable de mettre des points sur la feuille de pointage. Tu sais, évidemment, je sais que ça sonne un peu contradictoire par rapport aux arguments que je donne de Smith versus Leonard, mais là, c'est un contexte différent. Là. On parle pas d'aller chercher un gars qui va faire 90 points. Là, il n'y en a pas disponible à ce rang-là. Là. C'est juste que qu'on appelle boom or bust, soit qu'ils vont être excellents et potentiellement jouer sur un top 6 ou qu'ils n'auront pas de carrière dans la ligue. Je pense que le Canadien peut se permettre de risquer et d'aller chercher un joueur de même. Donc, je pense pas qu'Ethan Gauthier soit tant le choix, quoique ce serait intéressant. Mais tu sais, sinon, des joueurs comme Oscar Fisker, Mulgaard, le genre de Joel Eriksson-Neck de cette année, tu sais, genre de joueur hyper intelligent, hyper bon défensivement, mais peut-être avec un upside offensif limité. Ça aussi, bien que c'est un joueur qui pourrait être intéressant, je pense pas que ça soit ça. Sinon, il y a d'autres gros bonhommes. Est-ce que ça pourrait être ça? Un gros bonhomme qu'on sait que ça va être un gars de troisième trio, peut-être un upside de deuxième trio, mais qui amènerait beaucoup de poids, une certaine vitesse, une certaine énergie. Des Charlie Strammel, des Anton Wahlberg, David Edstrom. Wahlberg, Edstrom, là, c'est des gars de 6 pieds 3 avec un certain upside offensif. Est-ce que ça pourrait être intéressant, bien que leur upside soit limité? Le Canadien, on sait qu'ils ont une petite équipe, surtout s'ils vont chercher un Zach Benson ou un Matvei Michkov avec leur premier choix. Est-ce que là, d'aller chercher un gars comme Wahlberg ou Edstrom, qui amène du poids, est-ce que ça serait un choix intéressant? Grayson Sachin, que je pense qu'il va glisser, serait fort probablement disponible au 31, 36, 32e rang. Ce serait un choix très intéressant. Cohen Zimmer également, un excellent tireur. Pas le plus gros gabarit. C'est un gars, je pense, de quoi 6 pieds, Zimmer. Mais un des très bons plaqueurs du repêchage. Un genre de power forward plus petit format. Mais c'est ça, pas très bon défensivement, coup de patin à travailler, mais c'est le genre de choses qui peut se travailler. Puis je pense que l'upside est quand même très élevé dans le cas de Zimmer, puis il pourrait devenir, un peu comme Leonard, un joueur d'énergie avec un potentiel offensif. Si le Canadien repêche justement un gars comme Leonard et ou Zimmer, je pense que ce serait des bons compléments justement dans le top 6. Sauf que lui, c'est un peu plus boom or bust dans son cas. Puis sinon, un autre choix que moi j'aime beaucoup, c'est Bradley Nadeau. Nadeau qui domine la BCHL depuis 2 ans. Évidemment, c'est la BCHL, c'est vraiment pas la meilleure des ligues, mais il y a des stats hallucinantes. Un des meilleurs lancers également du repêchage. Puis un très bon coup de patin, on n'en parle pas beaucoup, on parle beaucoup de son lancer, mais il y a un des solides coups de patin du repêchage, Bradley Nadeau, un gars du Nouveau-Brunswick. J'aimerais beaucoup ça aussi le voir avec le Canadien, je pense que ça pourrait être intéressant comme ailier de deuxième ligne, d'avoir un gars justement rapide puis avec un bon lancer, potentiellement un spécialiste de l'avantage numérique également. Bradley Nadeau pourrait être un bon candidat pour le Canadien. Et comme je disais tantôt, un gardien de but aussi, ça ferait pas de tort. Pour conclure, je veux faire un rapidement top 5 des noms les plus cool du repêchage. Évidemment, quelques mentions honorables là, à Daniil Butt, que plusieurs disent Daniil Butt ou Danny Q. Mais sinon, numéro 5, Bo Akey. Tout simplement parce qu'il s'appelle Bo, puis qu'il écrit B-E-A-U. Puis Akey parce que ça sonne comme le Akey Breakdance. Numéro 4, Salvatore Guzzo. Le gars qui a un nom de pizzeria, puis de cinéma pas clair. Salvatore Guzzo, moi, ça me donne vraiment une odeur de pizza de popcorn. C'est incroyable. Troisième, qui est possiblement mon préféré à dire, mais qui n'est pas le plus cocasse, Oscar Fisker Mulgaard. D'ailleurs, il faudrait que quelqu'un me le dise clairement, parce que je pense qu'il n'y a personne qui s'entend là-dessus. Je crois que son nom de famille, c'est vraiment Fisker Mulgaard, mais il y a des sources qui mettent que son prénom, c'est Oscar Fisker, puis que Mulgaard, c'est son nom de famille. Il y a de l'information qui varie d'un site à l'autre. J'essaie de trouver des réponses, je n'ai pas trouvé. Bref. Numéro 2, Voldemort, William Hull. J'ai rien d'autre à rajouter là-dessus. Et le premier, son nom, c'est l'enfer. Hugo Hell. Mais ça battra jamais Marcel Marcel. Sur ce, merci pour votre écoute, merci pour votre support. Suivez-moi sur les différents réseaux sociaux et on se revoit au prochain épisode. Et n'hésitez pas à m'écrire ou à me laisser des commentaires un peu partout pour me dire c'est quoi pour vous le meilleur joueur disponible. Merci et à la prochaine.